Bonsoir, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour parler politique. Dans votre congolais de ce soir, je pense qu'en adoptant la semaine dernière du projet de budget 2010 au Parlement, après réaménagement, quelles sont les modifications qui ont été apportées à ce projet de budget? Ce projet répond-il aux besoins sociaux des bases des Congolais? Ce sont là les questions principales au centre de notre débat. Pour en parler exceptionnellement pour ce soir, nous avons quatre invités. Dédé Molossa, il est conseiller principal du Premier ministre chargé du Collège Finance, Banque et Monnaie à la Primature. Bonsoir, Monsieur Molossa.
Bonsoir, madame, et bonsoir également à tous les auditeurs de Radio Kati à travers la République.
Jean-Lucien Boussa, député national MLC et vice-président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Bonsoir, honorable.
Bonsoir, madame.
Modeste Baatiboukebo, député national ANC et aussi membre de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Il est en ligne. Bonsoir, honorable. Et le professeur Mathieu Kalele, professeur de sociologie à l'Université de Kinshasa et analyste politique. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, madame.
Les auditeurs sont aussi invités dans ce débat et sont déjà nombreux à réagir. C'est le cas de Simon Pierre de Goma, honneur qui vous. Les budgets de la RDC ne sont pas des budgets de fonctionnement, ne sont que des budgets de fonctionnement des institutions. Ils ne tiennent pas compte des investissements qui peuvent créer des emplois et améliorer les conditions de vie des Congolais. Et justement, Mango de Kindo Manema, nous sommes déçus aussi bien par l'exécutif que par le législatif. Ils perdent le temps dans des polémiques pour voter un budget parce qu'ils privilégient d'abord leurs intérêts. Nous les attendons en 2011. Bienvenue à tous dans cette émission. Dialogue autre congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78. Avant de commencer notre débat de ce soir, d'abord cette triste nouvelle. Dialogue entre Congolais vient de perdre un de ses fidèles analystes en la personne d'Arthur Kepel, décédé hier dimanche soir à Nairobi au Kenya d'un arrêt cardiaque. Arthur Kepel, notre compatriote, était expert à International Crisis Group, c'est une ONG internationale spécialisée dans la résolution des conflits. Au nom de toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille biologique, ainsi qu'à ses collègues de International Crisis Group. Revenons à notre débat, le Parlement a adopté le week-end dernier le projet de loi budgétaire 2010, prévu particulièrement en ce qui concerne la nouvelle affectation des recettes additionnelles. Cette seconde délibération se suite aux observations faites par le chef de l'État dans une lettre adressée au 2 chambres des explications avec vous, Julien Niamouni.
L'affectation des recettes additionnelles dégagées par la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat devait tenir compte des observations faites par le chef de l'État dans une lettre adressée au 2 chambres. Il s'agit entre autres le respect du principe budgétaire d'aligner les dépenses contraignantes sur les recettes dont la survenance est certaine, la nécessité d'intégrer une partie de ces recettes aux rémunérations, l'amélioration salariale des fonctionnaires de l'État, des policiers et des militaires. Pour se conformer aux observations du chef de l'État et éviter la polémique, les élus de l'Assemblée nationale et ceux du Sénat ont renoncé à l'augmentation de leurs indemnités. Ils ont dégagé une enveloppe de plus de 21 milliards de francs congolais pour les rémunérations des fonctionnaires, y compris les policiers et militaires. Plus de 80 milliards pour des investissements en province. Il faut ajouter sur cette liste plus de 20 milliards de francs congolais pour d'autres projets. La rétrocession en faveur des régies financières a été prise en compte. Il y a lieu de souligner que les deux chambres du Parlement vont bénéficier que de fonds destinés au fonctionnement des deux institutions. Enfin, une provision de plus de 68 milliards de francs congolais a été constituée en faveur de la Commission électorale nationale indépendante. En gros, pas de changement notable entre le projet de budget initial et celui adopté en seconde lecture.
Merci Julien Niamouni pour ce reportage. Chers invités, on va essayer d'être concret, précis et concis dans le débat pour permettre à nos auditeurs de bien comprendre le sujet et surtout ne nous perdons pas trop dans les chiffres. Honorable Jean-Lucien Boussa, vous venez de suivre le papier que vient de nous présenter Julien. Est-ce qu'il y a des éléments à ajouter par rapport à ce qu'il vient de dire?
Non, merci pour l'invitation. Je voudrais simplement rappeler que lorsque le président de la République retourne le budget à l'Assemblée nationale et au Sénat pour une seconde lecture, pour parler comme ça, il indique quatre raisons. La première raison, c'est qu'il faut affecter les recettes, allouer aux dépenses contraignantes les recettes courantes, donc les recettes certaines. Or, il a été clair, lorsque nous avons eu des discussions à ce sujet avec les membres du gouvernement, que les recettes dites additionnelles sont des recettes certaines. Il s'agit bien évidemment des prévisions de recettes. Or, dans les prévisions de recettes, il y a toujours une marge d'incertitude. Il s'agit des prévisions manquantes. Donc là-dessus, la question posée par le chef de l'État n'avait pas, avec sa réponse déjà, même dans le projet de budget tel qu'il a été envoyé au président de la République pour la première fois. Deuxième élément, c'est qu'il fallait tenir compte des rétrocessions en faveur des provinces, 40%. Ça a été donc fait parce qu'il s'agit d'une obligation constitutionnelle. Troisième élément, c'est qu'il fallait donc tenir compte des rémunérations des conditions sociales d'après le président de la République, il fallait tenir compte des conditions sociales des citoyens. Et là-dessus, le bas a blessé, simplement parce qu'on a posé la question au délégué du gouvernement pour nous dire quelle était la politique salariale du gouvernement, parce qu'il s'agit d'une matière qui relève du gouvernement. Quelle était à proprement parler la politique sociale du gouvernement? Quel était le salaire proposé aux huissiers, aux derniers soldats, aux derniers policiers? Sur cette question, le délégué du gouvernement nous a dit qu'il n'y avait rien qui était prévu dans ce sens-là. Donc voilà le problème. Mais malgré tout cela, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, on a dû allouer 21 milliards de dollars, plutôt de francs congolais, n'est-ce pas, dans l'enveloppe de rémunération des militaires et policiers. Quatrième observation du président de la République, c'est que l'exigence, c'est à nous tous, en tant que citoyens responsables, de pouvoir nous contenir dans les exigences d'atteinte du point d'achèvement. Et là-dessus, d'après les délégués du gouvernement, il fallait plafonner les dépenses de rémunération à un certain niveau. Pour les membres du gouvernement, c'est 6,7% du PIB, du produit intérieur brut. Mais nous avons estimé que le projet tel que nous présentait par les membres du gouvernement présente une cohérence, parce que le budget est une architecture. Lorsqu'on dit qu'il faut 6,7%, ça veut dire qu'à 6,7%, les objectifs macroéconomiques sont respectés. Mais à notre niveau, on ne pouvait pas à la fois concilier les besoins du président de la République d'améliorer le salaire des soldats, d'améliorer le salaire des policiers et des fonctionnaires, en même temps nous maintenir dans l'exigence, n'est-ce pas, d'atteindre du point d'achèvement au niveau de 6,7%. C'était tout simplement contradictoire. C'est pour cette raison que vous avez observé que les réponses du Parlement ont été telles que vous venez de résumer tout à l'heure, et donc, malheureusement, il n'y a pas de politique sociale, malheureusement, il n'y a pas de véritable politique de rémunération qui permettait donc l'accroissement des salaires des militaires, policiers et fonctionnaires. Donc, c'est ça le débat qui m'a été là.
Oui, Jean-Michel Boussamé, à vous entendre parler, on a l'impression qu'il n'y a pas eu un grand changement par rapport au budget initial. Je dirais même avant le réaménagement, égal après le réaménagement.
Non, mais je dis par rapport aux options basiques. Le chef de l'État, il dit ceci, qu'il faut tout faire pour améliorer les conditions sociales des fonctionnaires. À l'analyse de son propre gouvernement, notre gouvernement, il s'avère qu'au regard des contraintes des bailleurs de fonds, il n'est pas possible de dépasser un certain plafond. Donc, vous améliorez, d'après les exigences du Fonds monétaire international, donc l'enveloppe salariale à un certain niveau, vous brisez le cadre fixé par les bailleurs de fonds. Mais en même temps, le cadre fixé par les bailleurs de fonds n'est qu'une indication. Parce que le vrai problème ne se pose pas en termes de déterminants prévisionnels. Le vrai problème se pose en termes d'exécution du budget, de la capacité du gouvernement à pouvoir gérer de manière orthodoxe les finances publiques. Parce que, comme vous savez, le point d'achèvement aurait dû être atteint depuis très longtemps. Mais pourquoi il n'a jamais été atteint? Parce que la gestion a été telle que les indicateurs macroéconomiques, les critères indiqués par les bailleurs de fonds n'ont pas été réalisés, et donc nous avons été, on a repoussé l'atteinte du point d'achèvement d'année en année.
Voilà, honorable Modeste Bahati, vous êtes en ligne, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes députée nationale en thé, aussi membre de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Dites-moi, est-ce que vous êtes satisfait du travail fait par la commission dont vous êtes membre?
Bien sûr, je suis satisfait dans la mesure où nous avons pu quand même faire un travail. Et c'est là que je réponds à votre première question, posée au deuxième vice-président de notre commission. Lorsque vous demandez s'il y a un changement par rapport à la première mouture du budget qui avait été adoptée, j'ai dit qu'il y a une grande différence. La première, c'est que dans le nouveau budget, après seconde lecture, nous avons pu, nous, de notre propre chef au Parlement, dégager 127 milliards de francs congolais comme provision pour les élections 2011. Étant donné que ces élections vont se dérouler selon toutes les prévisions au premier trimestre 2011, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des crédits disponibles pour l'exercice 2010. Donc les 127 milliards n'étaient pas prévus par le gouvernement. Deuxième ajout, ce sont les 21 milliards dont l'honorable Boussa a parlé, 21 milliards pour les policiers et pour les militaires, qui n'étaient pas prévus par le gouvernement, parce que pour le gouvernement, rien ne devait être augmenté sur les salaires des agents et fonctionnaires de l'État.
On aura bien, s'il vous plaît, de manière concrète, le militaire va toucher combien?
Non, ça c'est pas notre devoir et il faut vraiment être précis là-dessus. Nous ne pouvons mettre des crédits à la disposition du gouvernement, mais il revient au gouvernement de les répartir et d'élaborer un barème. D'ailleurs, jusqu'au moment où nous partions, nous n'avions pas satisfaction à la réponse clairement posée de savoir combien va toucher l'huissier de l'administration publique, combien va toucher un directeur, un secrétaire général, combien va toucher une recrue, un soldat de première ou de deuxième classe. On n'a pas reçu de réponse précise de la part du gouvernement. Donc il faut que l'on dise à notre peuple, une bonne fois pour toutes, que ce n'est pas le Parlement qui fixe le barème. Nous, notre rôle, c'est d'améliorer le budget que nous est présenté de manière à diminuer les recettes additionnelles, mais une fois de plus, tout cela, nous le mettons à la disposition du gouvernement qui applique la politique de la nation. Mais si le gouvernement, dans sa politique, estime que toute augmentation de salaire risque de compromettre son contrat avec les institutions de Bretton Woods, là, ce n'est plus la responsabilité du Parlement.
Merci, honorable monsieur Dodé Molossa. Vous êtes conseiller principal du Premier ministre chargé du Collège Finance Banque et Monnaie à la Primature. Est-ce que le réaménagement du projet de budget 2010 avec les différentes affectations des recettes additionnelles faites signifiera un réajustement des salaires des militaires, fonctionnaires et policiers?
Merci beaucoup, madame, pour la question. Je réagirai d'abord par rapport aux interventions de mes deux prédécesseurs, M. Bahati, l'honorable Bahati et l'honorable Jean-Lucien Boucher, que je salue en passant. Je leur présente mes voeux le meilleur. C'est la première fois qu'on se rencontre. Je profite de l'occasion pour le faire. Pour dire en substance ce qui suit. D'abord, le problème des recettes additionnelles ne devait même pas faire polémique entre les deux institutions, c'est-à-dire le Parlement et le gouvernement, parce que s'il faut prendre seulement la période de 3 ans qui vient de s'écouler, 2007, 2008 et 2009, à tous ces exercices, les honorables députés et les honorables sénateurs, dans le débat sur le budget, ont dégagé des recettes. Il y en avait pour 197, vous n'aimez pas les chiffres, en 2007,
pas quand même
il y en
pas
avait 300 milliards en 2008, et en 2009, il y en avait pour 400 milliards, en 2010, pour 2010, je veux dire, il y en a pour 607 milliards. C'est une très, très bonne chose. L'instrument de politique exige la contribution des énergies de tous les acteurs politiques, qu'ils soient du Sénat, de l'Assemblée, comme également du gouvernement. Donc, ils dégagent les recettes. Le problème était au niveau de répartition, comme Jean-Lucien Boucher l'a indiqué, et le chef de l'État, en tant que garant de la nation, était bien dans le droit d'exiger que, pour ces recettes additionnelles, que la répartition se fasse suivant les règles de l'art. C'est-à-dire qu'une partie de ces recettes soit affectée aux rémunérations, une autre au fonctionnement pour des dépenses courantes, également qu'on réserve une part assez importante, c'est la politique du gouvernement depuis 2007, d'allouer suffisamment de ressources aux provinces pour le fonctionnement des institutions provinciales et locales, mais également pour les investissements qui sont pilotés, dirigés et exécutés par le gouvernement provincial et local. Donc, c'est important de le souligner. Ça ne doit pas être une polémique. La répartition était faite. Il y a eu des petits problèmes. Je dirais petits problèmes. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait la première répartition, la première moutille de l'Assemblée, on n'a pas affecté de recettes, on n'a pas tenu compte de 40% de ces recettes additionnelles qui devraient être retenues comme crédit complémentaire pour les provinces. Donc ça posait problème. Deuxièmement, pour ce qui est de l'enveloppe salariale, tout à l'heure j'ai entendu les honorables dire qu'il n'y a pas de politique en matière de rémunération. Je crois que là, ce n'est pas exact. Pourquoi ? Parce que pour le gouvernement, depuis 2007, la première mesure de la politique salariale a consisté à augmenter, compte tenu de la modicité des ressources propres de l'État, 2 milliards, 2 milliards et demi, c'est très faible, d'accepter d'augmenter et d'uniformiser le bas salaire, c'est-à-dire le salaire des huissiers, le salaire des attachés de bureau de première classe, des agents de bureau de première classe.
Est-ce que ça a été fait?
Ça a été fait par la consolidation à l'époque de tous les avantages dans le salaire de base qui est de 35 000 francs congolais depuis 2007. Mais il fallait étendre cette politique, cette action d'uniformisation à toutes les catégories socio-professionnelles des agents et fonctionnaires de l'État. Mais le coût est tel qu'il faudrait y aller progressivement, et c'est ce qu'on a prévu comme mesure principale, c'est-à-dire uniformisation des salaires entre les salaires, parce qu'il y avait des disparités importantes entre les rémunérations des gens, des agents fonctionnaires de Kinshasa et ceux de province, mais également entre les agents dits du régime général et ceux du régime spécifique. Donc, il est important qu'on puisse harmoniser sur la question. Je suis content qu'on y ait arrivé, mais dire qu'il n'y a pas de politique, il y en a de politique.
La politique, mais après, les salaires ont été uniformisés.
Uniformisation au niveau des salaires de base, de bas salaire, c'est-à-dire les salaires de huissier. Nous avons commencé parce que l'enveloppe existe plus ou moins 1,5 milliard de dollars pour uniformiser, ne fût-ce qu'au niveau des agents de huissier, les gens, les bas salaires. Également, la politique du gouvernement est d'exempter d'impôts toutes les rémunérations dites de bas salaire. Donc, il y a une politique avec objectif d'atteindre dans quelques années les accords, le taux réglementaire de Mboudi, qui, il faut le souligner ici, que pour appliquer Mboudi, il nous faut 9,6 milliards de dollars américains de contre-valeur, compte tenu du niveau actuel des effectifs qui tournent autour d'un million d'agents et fonctionnaires de l'État civil et militaire.
Oui,
donc, il y a une politique pour ce qui est du gouvernement. La tâche qui a été exécutée en quelques heures par les honorables députés et sénateurs, c'est une très bonne tâche. Nous avons le budget. La répartition était faite en respectant tous les critères d'usage en matière de rémunération. Mais je voulais dire un petit mot en ce qui concerne les accords avec le Fonds monétaire. Le Fonds monétaire simplement demande au gouvernement...
Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Est-ce que vous allez réajuster les salaires des fonctionnaires, militaires, policiers?
Nous le faisons chaque année, madame. Et nous le faisons dans une politique d'abord d'uniformisation, de consolidation de la base. Nous l'avons fait en 2007. En 2008 et 2009 et même 2010, nous sommes dans le processus d'uniformisation de salaires au niveau les plus bas. Et
on peut avoir une idée sur les salaires.
La prochaine mesure sera peut-être d'augmenter au niveau le plus élevé et appliquer la
taxe d'arrivée. On peut avoir une idée sur les salaires d'un policier ou d'un militaire pour 2010?
Pour 2010, avec le dernier réajustement qui vient d'être fait par l'Assemblée, je crois que le militaire, ça dépend d'abord. Lorsque vous parlez militaire, vous parlez
le
moins gradé. Le salaire pourrait facilement tourner autour de 60 000 francs congolais.
Bon, on va vérifier
c'est
ça.
C'est très peu, madame, je l'ai dit, c'est très peu. C'est dû au fait que nous avons une hauteur de budget, un volume de budget voté par les honorables députés sénateurs qui ne permet pas à ce que l'État, en matière de gestion du budget budgétaire, je n'apprendrai rien aux honorables députés pour dire que vous ne pouvez pas allouer plus de 40% de vos ressources budgétaires uniquement pour les rémunérations et ne pas penser au fonctionnement des institutions qui ont doublé du fait que aujourd'hui le gouvernement de la majorité est le seul qui transfère plus ou moins 30-40% des ressources aux provinces, ce qui reste pour assurer la gestion de fonctionnement.
On va revenir à vous, monsieur de Demolesta. Vous êtes à 7 minutes, vous êtes largement en avance par rapport aux autres, je reviendrai à vous.
C'est normal parce que j'ai plus d'informations que les autres.
On va revenir à vous. Ok, professeur Kalele, j'imagine que vous avez suivi le séminaire sur ce problème, ce sujet de budget, projet de budget réaménagé. Votre analyse par rapport à ce réaménagement du budget 2010.
Bon, merci beaucoup. Je crois que nous sommes en train d'assister à un jeu de ping-pong. Le gouvernement qui incrimine le Parlement qui incrimine le gouvernement. Ça ne nous intéresse pas. Je crois que le plus important, c'est le deuxième volet que vous avez soulevé. Est-ce que ce budget permet de répondre aux préoccupations de base de la population? Nous serions édifiés, on vient de nous donner des indications, $60, c'est ça, pour
les 60 000 francs
pour, mais les calculs ne sont pas encore terminés, parce qu'il faudrait attendre qu'au niveau que le chef de l'État puisse promulguer
le calcul. On retient d'abord 60 000 francs.
En concertation avec les intéressés.
Okay.
60 000 francs, madame, c'est moins de $100. Il faut y ajouter les dévaluations régulières et les flambées de prix. Le problème de base, c'est que les différents budgets que nous avons vus, quand ils sont présentés d'abord par le Premier ministre qui vient là, il souligne que c'est des budgets modiques. Les députés et sénateurs débattent dans ce sens et finissent par nous présenter des budgets modiques. Donc au départ, on n'est pas à mesure avec ce budget-là de répondre aux besoins sociaux de base avant tous les autres besoins. On nous parle ici de ce qui est transféré aux provinces, le 40%. Chaque année, on vote, mais vous savez que l'année dernière, il y a eu beaucoup de tiraillements entre le gouvernement central et les provinces. Que le fameux 40% n'était pas libéré. Il y a eu même une réunion de gouverneurs à Kisangani. On avait pris des engagements que avant la fin du mois, on alimentait ce compte-là. Nous avons encore assisté à des démarches des responsables des provinces pour réclamer le fameux 40%. Pour ce qui est des salaires, nous vivons cela depuis très longtemps. Il y a des instructions fermes et strictes des bailleurs de fonds, notamment le Fonds monétaire, la Banque mondiale, qui interdisent d'augmenter les salaires. Ça, ce n'est un secret pour personne. Quand vous prenez même les deux documents, le document du président de la République et le document du ministre du budget, il y a une contradiction. Il faut ajouter. D'autres dit on ne peut pas ajouter parce que il y a telle ou telle contrainte. Bref, les différents budgets que nous avons, qui sont des passes politiques, qui recusent les augmentations de salaire, ne peuvent pas permettre un développement du pays. Et les faits le démontrent au quotidien. Les fonctionnaires, les différents agents de l'État, avec leur salaire en plus, qu'on n'a pas de date fixe, on est payé de manière horoscopique.
Mm-hmm.
Et avec les dévaluations, il faut compter sur le pouvoir d'achat et non pas sur la masse monétaire qui est donnée à chaque individu. Donc c'est des budgets anti-sociaux et anti-développement.
Merci, professeur Jean-Lucien Boussa. Autour de combien le budget a-t-il été calculé?
Le cadre macroéconomique indique un taux de croissance de 5,4%, un taux de change moyen de 950 francs pour un dollar.
Vous pensez que d'ici 2 ou 3 mois, le franc congolais gardera la même valeur,
Mais c'est tout le problème qui se pose dans notre pays. On nous indique qu'il y a des exigences des bailleurs de fonds, c'est pour lesquelles nous ne sommes pas en désaccord, parce qu'il est clair qu'on ne vit pas en vase clos ni en éparpille. Donc on a besoin, pour se développer dans un pays à budget maudit comme le nôtre, de bénéficier des opportunités que nous offre le monde extérieur. Cependant, tous les problèmes de nos budgets, tous les problèmes de notre économie, c'est la gestion. En 2007, le gouvernement nous amène un budget avec 1,2 milliard de dollars. Le Parlement, grâce à son travail, le pousse à 1,650 milliard. Le taux de change fixé à l'époque, c'est 1,500 $. Qu'est-ce qui arrive? C'est le dérapage complet. Mais qu'est-ce qui explique le dérapage? Le taux de change, l'accroissement du taux de taux d'inflation, etc. C'est la mauvaise tenue des finances publiques qui réjaillit sur la politique monétaire. Et vous avez les avances de la Banque centrale qui ne sont pas couvertes par une quelconque production. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la dépréciation de la monnaie, c'est l'inflation. Donc, tous les problèmes dans notre pays, et tout le monde le sait aujourd'hui dans ce pays, le déficit fiscal congolais est important, c'est-à-dire le potentiel en ressources fiscales est important. Il convient de les mobiliser. C'est pour cette raison que chaque année, vous voyez des budgets aller en augmentant, alors que les structures de production sont restées les mêmes. N'est-ce pas, d'une part? D'autre part, vous avez le peu de ressources dont on dispose, qui est très mal canalisé, qui est très mal géré. La qualité de la dépense est mauvaise. Et on en arrive à des excès.
C'est qui gère mal l'exécutif?
Pardon?
Qui gère mal?
Non, mais qui gère, c'est l'exécutif. Le Parlement contrôle, le Parlement légifère, donc c'est clair. Donc, tous les dérapages observés sont dus au fait de la mauvaise tenue des finances publiques avec une mauvaise politique monétaire.
Monsieur de Demoulos vient de dire que vous ne facilitez pas aussi la tâche au gouvernement. Quand vous votez par exemple le budget, vous ne tenez pas compte du fonctionnement des institutions.
Mais non, pas du tout. Mais je crois qu'il a dit tout à l'heure qu'il avait beaucoup plus de données. Mais tout le monde a beaucoup de données aussi. Je voulais simplement dire que lorsque le budget est voté, mais le budget traduit la politique du gouvernement en matière économique, en matière sociale, en matière politique, en matière sécuritaire. C'est la traduction en termes chiffrés de ses objectifs. Donc c'est le gouvernement qui est tenu responsable aussi bien des prévisions que de l'exécution du budget. Mais le Parlement, son rôle c'est lequel? C'est de doter le gouvernement, sinon le pays, de moyens de sa politique. Le gouvernement devrait être pressé à pouvoir obtenir son budget pour pouvoir appliquer sa politique. Et notre rôle se poursuit par le contrôle que nous exerçons sur l'exécution du budget. C'est ça la différence entre le gouvernement, mais je dis par rapport aux différentes dépréciations, par rapport à la montée de l'inflation, la responsabilité est tombée à une mauvaise gestion, sinon pour atténuer les termes, une mauvaise tenue des finances publiques et une politique monétaire inadéquate.
Merci, honorable. Honorable Bahati, qu'est-ce qui pourrait arriver si le chef de l'État n'est toujours pas satisfait du réaménagement du projet de budget 2010 tel qu'adopté par le Parlement? C'est aussi la préoccupation d'un auditeur, nous de Goma au Nord Kivu.
Bon, je dois vous dire que si le chef de l'État n'est pas satisfait, tout ce qu'il faut faire, c'est d'interroger la Constitution, que prévoit la Constitution en pareil cas. Mais tout ce que je dois vous dire, madame, c'est que toutes les 4 observations soulevées par le chef de l'État dans sa correspondance ont été scrupuleusement respectées. Le principe budgétaire d'aligner les dépenses contraignantes sur les recettes courantes, dont la suffisance est certaine, ça a été respecté. La nécessité d'intégrer en bonne place une quantité de recettes courantes affectées aux rémunérations des fonctionnaires et autres agents, nous l'avons fait dans la mesure des moyens disponibles, c'est-à-dire les 21 milliards. Le chef de l'État a demandé qu'on alloue une quantité de 40% aux provinces. Ça a été fait. Sur les 272 milliards de recettes courantes, nous avons affecté les 40%, à savoir 101 milliards. Et enfin, tenir compte des contraintes liées au programme avec les institutions de Bretton Woods. Là aussi, nous nous sommes délaissés de tout ce qu'il y avait comme ajustement, parce qu'en fait, ce que nous considérons comme augmentation des émoluments des députés, ça n'en était pas. c'était tout simplement que nous voulions que les émoluments qui ont été décidés en 2007 soient les mêmes mais payés au taux du budget. Donc il n'y avait aucune augmentation en termes réels. Donc les quatre conditions ont été remplies, mais nous sommes allés au-delà. Au-delà des quatre, nous avons quand même constitué une provision pour les élections de 2011 de 127 milliards. Donc c'est pour vous dire, madame, que de ce côté-là, je crois que le Parlement a fait son travail. Mais vous devez savoir aussi que nous sommes régis par les relations telles que définies dans la Constitution. Ce ne sont pas des relations de maître à élève ou de... Il s'agit de la collaboration entre les institutions. Et que chaque institution, à partir du moment où elle a fait son travail, elle laisse à notre institution le temps de faire le sien. Donc, ce que vous devez retenir, madame, et j'espère que vous nous accorderez aussi au fil du temps, comme vous l'avez fait pour le conseiller du Premier ministre, il a parlé suffisamment. Et ici, il faut souligner en fait qu'au niveau du Parlement, et là pour répondre d'ailleurs au professeur Calais, mais que on ne se rejette pas la balle, on ne s'accuse, on ne s'entracuse pas. Mais nous avons tout simplement constaté que des questions qui étaient en étude au niveau des chambres, nous avons envoyé le budget auprès de l'institution présidente de la République pour 1000 francs. Il y a des délais qu'il fallait respecter. Ces délais-là n'ayant pas été respectés, nous nous sommes trouvés dans un nouveau cas de figure qu'on n'a jamais vécu et qui n'était pas prévu par la Constitution. Donc, nous nous retrouvons là comme aujourd'hui, nous n'avons ni la loi de crédit provisoire, ni la loi budgétaire, et donc c'est un cas tout à fait nouveau et qui nous pousse justement à puiser dans nos ressources intellectuelles et voir ce qui peut être fait. Et à ce moment-là, on va se référer à la Constitution qui donne au chef de l'État, selon l'article 69 de la Constitution, le pouvoir est pour assurer un bon fonctionnement des institutions.
Merci, oui. Honorable. On a plus beaucoup de temps. Mais est-ce que vous pouvez répondre d'abord?
Je
vais vous poser une question. Vous allez... Honorable, s'il vous plaît.
Le salaire, ça va demeurer un problème de tous les jours. Parce que lorsque vous analysez ce budget, et comme M. Moulot a le chiffre, il sait très bien que le budget tel qu'aménagé, il représente seulement 2318 milliards de recettes courantes. Et quand vous prenez les dépenses du personnel, ça fait quelque chose comme 753 milliards, donc 32%. 32%, en toute logique, c'est pour dire à toute personne qui n'a pas besoin de faire le calcul, que les dépenses de rémunération du personnel représentent 32%. Ça veut dire que même si on ignorait toutes les autres charges, toutes les autres institutions, et qu'on donnait l'entièreté de 2318 milliards aux fonctionnaires et agents de l'État, on n'aurait qu'à doubler, à tripler tout simplement ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Donc celui qui gagne 35 000 francs congolais en aurait 105 000 francs.
Donc c'est
les meilleures conditions que nous recherchons pour nos fonctionnaires. Les meilleures conditions résident dans la recherche des ressources nouvelles. Je l'ai toujours dit.
Merci, honorable. On vous a compris. Vous êtes dans le même timing que tout le monde. Honorable, s'il vous plaît. Voilà, ce projet répond sur le besoin social des bases des Congolais. C'est la deuxième partie de notre émission, mais avant de poursuivre, le rappel de contact.
Dialogue Info Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant 081-890-66-78 ou encore par SMS au 081-05-15-778.
Ce projet réaménagé répond-il aux besoins sociaux de base des Congolais? Le chef de l'État, lors de son dernier discours au Congrès sur l'état de la nation, a déclaré que l'année 2010 sera une année du social. Professeur Kalele, vous pensez que ce budget va répondre aux besoins sociaux de base des Congolais?
Non, madame. Non, absolument non. Pourquoi? On a dit d'abord que le point de départ, c'est un budget trop modique. Tout le monde le reconnaît. Et si vous le comparez, au budget d'autres pays moins nantis que le nôtre, il est ridicule. Troisième raison. Le chef de l'État, l'année dernière, lorsque le gouvernement Mouzito s'est investi, il se voit confier trois missions. L'amélioration de conditions sociales, la relance de l'économie et la sécurité à l'Est. Le premier point, l'amélioration, on arrive à la fin de l'année, vous avez les dévaluations, les flambées de prix, vous avez également les licenciements. Et on fait un constat de siècle. On dit non, ce n'est plus 2009, c'est 2010. Nous commençons 2010 avec des licenciements, des dévaluations, des flambées de prix. C'est à quoi nous avons assisté aussi pendant la période de Mobutu, cette année du social. Ce qui est assez scandaleux dans tout ça, il faut dire la vérité. Les différents budgets depuis Mobutu, nous ne les élaborons pas ici. Ce sont des budgets qui sont imposés, qui viennent de l'extérieur, du Fonds monétaire. Et vous voyez d'ailleurs les missions de contrôle assez régulières sur la manière dont vous dépensez votre argent. Et le gouvernement et le Parlement acceptent, entérinent ce budget-là, tout en sachant qu'ils sont modiques. On dit, bon, c'est parce qu'il y a eu des contraintes extérieures, des fonds monétaires. Mais vos préoccupations, quand vous dirigez, c'est satisfaire les besoins de vos gouvernants. Nous avons connu, dans ce pays, un certain Laurent Désiré Kabila, qui s'est passé le dictat du Fonds monétaire de la Banque mondiale, et il a pu réaliser, gérer avec les fonds locaux. Il est sans dette extérieure, il est mort sans dette extérieure. Malgré aussi le fait qu'on nous dise, ouais, il y a des fonds qui viennent de l'extérieur et tout ça, on voit dans le vécu quotidien que le pays est en train de régresser plutôt que d'avancer.
Merci professeur, monsieur Dédé, mon message revient à vous. Voilà. On a tout un ministère chargé des besoins sociaux de base des Congolais, de la population, mais on ne sent pas une action ou des actions d'envergure dans ce sens, dans le sens d'aider la population, de venir en aide à la population et d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Est-ce que ce ministère manque des moyens pour fonctionner ou il y a autre chose?
Madame, je dirais d'abord qu'il ne faudrait pas que l'opinion retienne ce que le professeur Kalele vient de dire ici, que le budget de la République est élaboré, conçu à partir de l'extérieur. C'est une injure à la majorité, à l'opposition, qui sont dans les institutions et qui discutent de l'élaboration, de la préparation et du gouvernement qui en exécute. En tant que membre du Fonds monétaire international depuis 1960, lors de l'indépendance, le Congo accepte bien sûr le contrôle du Fonds monétaire international en tant qu'organe régulateur du système monétaire et financier pour l'élaboration et la préparation des politiques économiques, financières et monétaires, mais ce ne sont pas des dictats à ce que je sache. En ce qui concerne les besoins sociaux de base, tout le monde en parle. Tout le monde en parle tout en même temps reconnaissant que nous n'avons pas suffisamment de ressources. Mais les ressources viennent d'où? Ça vient de la production nationale de richesse en bon français, en français de technicien, PIB. Nous avons un PIB aujourd'hui estimé à plus ou moins 12 milliards et demi. Même si vous pouvez le doubler, hein, imaginez qu'il y a des éléments du budget de richesse qui ne rentrent pas en ligne de compte dans la base de calcul du PIB. Il sera 25 milliards et avec un PIB de 25 milliards, même si vous pouvez prendre toutes ces richesses-là, en faire un budget de 25 milliards, vous ne résolverez que, par exemple, le problème de rémunération. Je vous ai dit ici que pour appliquer Mboudi, c'est-à-dire donner 250 dollars au huissier et 2500 au secrétaire général ou au directeur de la fonction publique, il nous faut 9 milliards 600 millions de dollars en fonction évidemment des effectifs aujourd'hui qui est estimé à 1 million plus ou moins des agents et fonctionnaires civils et militaires. Donc c'est un objectif à atteindre pour la majorité qui travaille, qui a commencé par consolider la base de bas salaires, qui est en train de uniformiser cette base, ce qui n'a jamais été fait, et c'est une situation catastrophique que la majorité a trouvée et dans laquelle le gouvernement travaille en profondeur pour essayer de résoudre. Nous n'y arriverons que par étapes et nous sommes en train de faire. Les besoins sociaux de base, c'est les routes.
Pour ce qui est de route, nous avons un programme d'investissement. S'il vous plaît, madame, nous n'allons pas améliorer seulement avec le salaire, nous allons aussi améliorer avec la qualité des infrastructures économiques et sociales. Par exemple, pour les routes, nous avons 3 milliards de dollars que nous avons obtenus de Sénat qui vont être uniquement investis dans les infrastructures de base. Et le chef de l'État l'a dit le 6 décembre. Les routes qui partent de Moanda au bord de l'océan, qui vont passer par Boma, Matadi, Kinshasa, Bandundu, les deux Kasai et la province du Katanga, et qui vont encercler la République du côté de l'Est. Et ces routes sont en construction au moment où je parle. La capitale, c'est très important qu'on puisse améliorer la qualité des infrastructures dans la capitale, parce que ça aussi, c'est un problème. Mais le deuxième sujet de débat, c'est aussi la desserte en eau en électricité. Vous n'en parlez pas, mais c'est comme ça que nous, gouvernement, nous définissons tous ces termes-là. C'est la desserte en eau en électricité. S'il vous plaît, madame, ne donnez pas l'impression que le gouvernement fait des budgets pour distribuer gratuitement les revenus à la population. Donc, lorsque nous avons un programme d'investissement économique et social, nous avons prévu également de créer des emplois. Plus ou moins 300 000 qui vont être créés. Nous sommes à aujourd'hui à 38 000. Et cette année, il y a 1 milliard 400 millions de dollars de contre-valeur prévus dans le budget. Nous n'en parlons pas. Nous parlons plus des ressources propres du gouvernement. Mais en ce qui concerne les ressources extérieures, il y a 1 milliard 400 millions de dollars de contre-valeur qui sont dans le budget, qui sont inscrits dans le budget pour animer le programme d'investissement économique et social de la ville. C'est de cette manière-là. Nous avons aussi un programme pour réhabiliter l'INGA. Nous avons commencé à réhabiliter l'INGA pour améliorer la desserte en électricité. Pour ce qui est de l'énergie, disons, nous avons des accords avec la Banque mondiale.
Monsieur
avec
vous, la banque. Monsieur Molaté, nous sommes mollets, ça nous sommes presque à la fin de notre émission. En conclusion, en une minute, parce que nous devons donner aussi la parole aux autres. Il nous reste 4 minutes seulement pour mettre fin à cette émission.
En une minute, la majorité au pouvoir est consciente des difficultés qu'endure notre peuple depuis des décennies. Elle y travaille depuis 2007 et elle va continuer à travailler pour rechercher suffisamment de ressources et répondre aux besoins. Nous avons un projet de société qui est cohérent et qui répondra aux objectifs de l'amélioration de la qualité de l'offre de services publics à la base.
Merci, monsieur Molossa. Jean-Lucien Boussa est un député, plutôt un auditeur qui nous écrit. Il demande si le budget a été de nouveau adopté en faveur des députés et ministres ou sur base des problèmes du pays.
Non, je voudrais
aussi votre conclusion.
Non, je voudrais d'abord répondre aux questions pertinentes que je voulais simplement dire que je viens de suivre le conseil principal du Premier ministre. Franchement, il proclame l'état minimaliste, d'une part, mais aussi il proclame un état totalement résigné, où tout le monde dit qu'il n'y a pas de ressources suffisantes, tout le monde dit qu'on ne peut rien faire. Mais non, la question n'est pas celle-là. La question, c'est d'avoir une véritable ambition et une politique déterminée par rapport au développement économique et social. Par rapport au développement économique, mais vous savez très bien que ce pays dispose d'un potentiel de croissance économique très important, mais il est raboté tout simplement par l'effet de la mauvaise gestion. Malheureusement, c'était quand même déséquilibré. En conclusion, je voudrais dire que la politique sociale du gouvernement est inexistante. Elle n'est pas visible. En même temps que sa politique économique, alors que le gouvernement est résigné, il proclame un état minimaliste, la corruption bat son plein.
Merci,
et c'est pas qui la République.
Merci Jean-Lucien. Professeur, en 30 secondes, votre conclusion.
Je crois qu'il ne faut pas faire de discours. C'est des discours comme ceux qu'on a entendus en 1982, de Mobutu, nous ferons, etc. Il faut interroger les faits au quotidien. Aujourd'hui, après les élections, est moins bien qu'avant les élections.
Merci, professeur.
En matière de niveau de vie et de forme d'ailleurs.
Merci, professeur. Je suis désolé. Laurent Lebas, tu as 30 secondes aussi. Votre conclusion.
Juste 30 secondes pour insister sur le fait que tous les tiraillements ont fait l'olacisme. C'est vrai, il y a des problèmes de gestion déjà des faits de ressources que nous avons, mais il faut ouvrir les grands dossiers, les forêts, le pétrole, le gaz, l'eau, l'énergie, l'INGA. Vendre convenablement ces ressources-là et nous aurons suffisamment d'argent que nous ne pourrons plus nous tirailler tous les jours à la longueur des jours.
Merci, honorable, c'est la fin de cette émission et merci de l'avoir suivi. Réalisation de Guy Mathieu, assisté d'Alain Hirin de Mahoum de Moukoumia sous la coordination de Ben Kabamba. Merci à Guy Manzang qui était à la technique, à la présentation, c'est l'écouté. Merci à tous les auditeurs qui ont participé à ce débat et nous nous excusons parce qu'on n'a pas eu le temps de lire vos réactions. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site www.radiotapi.net. Après, vous retrouvez toute l'équipe demain, même heure, même fréquence.